Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On ne peut jamais vous promettre d'une semaine à l'autre que l'émission est un remède contre le stress et l'anxiété, mais en même temps, si ça vous cause du stress et de l'anxiété, puis vous continuez de nous écouter, ben, ça s'appelle un peu du masochisme. Salut tout le monde! Comment ça va? Si l'émission peut contenir des infos qui débutent à l'instant. Et l'ami Sébastien Boucher qui est là avec moi, comment vas-tu?
Très bien, fidèle au poste cette semaine.
Oui, puis il faut vous annoncer quelque chose. On a deux nouvelles, dont une qu'on souhaite vous rappeler parce que vous la connaissiez déjà. Je pense que vous l'avez annoncé quelque part comme au mois de décembre dernier, avant la période du temps des fêtes, avant de prendre un break. Là, ben, il faut vous rappeler que l'émission peut contenir des infos, ne reviendra pas cet automne. C'est la fin, là, ça va se terminer avec le mois de juin, ça va avoir duré 3 ans. Une autre affaire qu'il faut vous annoncer, c'est que l'ami Sébastien, c'est sa dernière émission.
Je suis triste, mais très, très satisfait du travail accompli jusqu'à présent. Mais oui, c'est la fin pour moi aujourd'hui.
Ben merci, hein, merci Sébastien. Ben, on fera quand même pas là, une grosse histoire avec ça, mais merci d'être entré dans cette émission-là au mois de septembre dernier. Et puis, la chimie s'est installée et tout ça, puis on va essayer pour cette dernière émission-là, ensemble, de faire une bonne job. C'est promis?
Absolument, c'est garanti. On va l'avoir, on va l'avoir.
Et puis à compter de la semaine prochaine, et c'est la raison pour laquelle Sébastien va tirer sa révérence dans une certaine mesure, c'est qu'à compter de la semaine prochaine, je vais être là pour les quelques dernières semaines qui vont nous conduire jusqu'à la mi-juin. Et il y a une nouvelle co-animatrice qui va s'installer, elle s'appelle Cathy Morin. Elle va être l'agente d'un programme qui s'appelle l'Initiative de journalisme local. Et c'est elle qui, à compter de l'automne prochain, va prendre la barre d'une nouvelle émission. Et pour comme vous préparer un petit peu à entendre cette nouvelle voix-là, c'est elle qui, à compter de la semaine prochaine, pour les quelques prochaines semaines, va se familiariser avec l'univers des équipements qui sont en studio ici et tout ça, puis pour que vous connaissiez un petit peu sa voix et tout ça. Mais avant ça, il faut livrer un bon show. Et Sébastien, tu vas nous parler, entre autres, tantôt de la plus ancienne fourmi du monde.
Oui, on a découvert. Les fourmis sont plus anciennes qu'on le croyait.
Ah ouais, hein?
Il y a des fourmis plus vieilles qu'on aurait pu penser. Et puis, puisque c'est moi qui présente le quiz cette semaine, mais pour mon dernier quiz, je vais y aller dans le sujet qui me passionne le plus, je dirais, dans la vie,
okay.
L'astronomie.
Oh, ben, l'astronomie!
Mais je te prépare un petit quiz pas trop difficile, mais sur les notions de base, surtout sur le système solaire. Donc, ce sera pour faire le tour.
OK. Tu vas parler de l'or aussi un petit peu plus tard, je pense?
Oui, le métal, l'or.
Moi, je vais répondre à la grande question. C'est pas la question d'entre toutes les questions, mais on se l'est souvent posé. Se parler à soi-même, est-ce que c'est normal?
Ça, je sais pas. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Et moi, je le fais pas.
Non, tu le fais pas.
Mais il y a beaucoup de gens qui le font.
Est-ce que se parler à soi-même, c'est normal? Alors, on va répondre à ça. Puis, j'aurai également un autre sujet ou deux si on a le temps. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système électoral canadien. Mais d'abord, sujet très, très intéressant, l'IA, l'intelligence artificielle, dont on entend tellement parler, pour prédire quoi? L'effondrement de la société?
Bien, absolument. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, là, présentement, on a des outils pour modéliser l'avenir de l'humanité, en quelque sorte, puis de la planète. Puis les questions qu'on pose à l'intelligence artificielle, bien, il y en a des troublantes. Et puis parmi une des pires, bien, c'est ça. Quand est-ce que la société va s'effondrer? Puis là, les chercheurs, ils l'utilisent, l'intelligence artificielle, pour voir quelle sorte de réponses elles vont donner. Et les scientifiques du MIT, hein, ce qui n'est pas piqué des verres, le Massachusetts Institute of Technology, qu'on a déjà mentionné également plusieurs fois à l'émission,
ben oui.
Ils se sont penchés, ces chercheurs-là, au sujet dès 1972 sur l'idée de l'effondrement de la société, en utilisant à l'époque, bon, c'était des modèles informatiques pour tenter de déterminer quand est-ce que la société humaine va s'effondrer. Puis leurs conclusions, qui ont été longtemps ignorées, refont surface à cause des nouvelles études et de l'actualité mondiale aujourd'hui. Alors, les origines, je vais te parler des origines, là, le rapport du MIT en 1972, l'équipe avait utilisé la modélisation informatique, ils ont analysé l'évolution de la population, les ressources naturelles, consommation d'énergie. Et puis, dans leur étude, bien, on mettait en garde contre les limites de la croissance, puis on prédisait un effondrement de la société si les tendances se poursuivent. Donc, déjà là, en 1972, on sentait que la société n'était pas là pour perdurer trop longtemps. Puis, selon les calculs du MIT, le point de bascule se situerait autour du milieu du 21e siècle. Donc, on disait 2040. Hein, c'est quand on est rendu là en 2025, on voit ça arriver comme très, très vite, qu'il resterait moins de deux décennies, donc, avant un effondrement potentiel. Bon, si rien n'était fait pour inverser la tendance. Puis à l'époque, ces prédictions-là ben, avaient été accueillies avec, on va dire, du scepticisme. Là. Les gens étaient là, ben voyons, 2040, effondrement de la société, on n'y croit pas trop. Puis aujourd'hui, ça a été réévalué avec l'intelligence artificielle et tout ça, et c'est là que ça devient très intéressant. Ben, premièrement, on va reculer en 2009. Il y a une nouvelle équipe de chercheurs qui avait réexaminé le modèle du MIT de 1972, puis avait constaté que les résultats étaient presque exactement sur la trajectoire qui était prévue. Donc, on regardait en 2009, on était 37 ans plus tard, puis on voyait encore que 2040, ça s'en venait à l'effondrement de la société. En 2021, la chercheuse néerlandaise Gaia Harrington a aussi confirmé que les données actuelles correspondaient au scénario pessimiste du rapport initial, avec un arrêt de la croissance économique à la fin de la décennie et un effondrement de la décennie présente, puis un effondrement de la société vers 2040. On disait encore ça, là, 2021. Puis malgré ben, ces perspectives sombres-là, ben, Gaia Harrington a souligné qu'il existe encore une marge de manœuvre. Selon elle, là, l'innovation dans les entreprises, ça pourrait nous sauver. Les politiques gouvernementales, l'engagement de la société civile, ben, ça pourrait nous permettre d'éviter cette fameuse effondrement. Puis mettre à jour régulièrement les modèles, s'adapter aux nouveaux défis, ça offre aussi une chance de construire un monde qui serait plus durable, en fait. Alors, l'intelligence artificielle, ça affine les prédictions aujourd'hui et ça permet d'intégrer des nouveaux paramètres. Alors, comme changement climatique, par exemple, les crises économiques, les avancées technologiques, on peut tout prendre ça en compte dans l'intelligence artificielle. Puis les modèles informatiques deviennent donc des outils assez précieux, on va dire, pour alerter, mais aussi pour guider les décisions politiques, économiques, vers plus de résilience, plus de durabilité. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, pour ne pas connaître une crise majeure, l'innovation, c'est sûr, coopération internationale, ça prend ça, adaptation des politiques publiques, ça aussi, ça offre une lueur d'espoir. Mais tu vois, l'intelligence artificielle nous met comme un peu sur la piste. C'est comme, faites ci, faites ça. C'est quand même pas fou. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, on utilise l'intelligence artificielle à toutes sortes de sauces. Et puis, on a voulu voir si l'effondrement de la société pourrait avoir bien lieu en 2040. Et tout semble indiquer qu'en effet, là, la société court à sa perte présentement. Alors, il y a de grands changements à faire. Il est temps qu'on mette la main à la pâte, l'épaule à la roue et que voilà.
Merci Sébastien. C'est peut-être pas très encourageant, mais coudonc, au moins on va prendre conscience que le mur peut-être s'en vient d'ici quelques années. Hein?
Bien, ce que je trouve encourageant, moi, en fait, Simon, c'est le fait qu'on nous dit, autant au niveau des spécialistes que de l'intelligence artificielle, qu'il y a moyen de renverser la vapeur. Il y a moyen de le faire encore. C'est pas fatal. C'est pas une fatalité qui nous arrive. Donc, ça regarde mal, mais il y a moyen de prendre les choses en main.
En deux, trois petites minutes à peu près, je vais répondre à la question que plusieurs d'entre vous se sont déjà posée. Se parler à soi-même, est-ce que c'est normal?
Oui.
Hein? Il y en a qui disent que c'est un signe d'intelligence, il y en a d'autres qui disent que c'est plutôt un signe de folie, mais qu'en est-il réellement? Soliloquer. Tu savais que parler à soi-même, c'est soliloquer, hein?
Soliloquer, non, c'est un verbe, non.
Ouais, soliloquer, la soliloquie. Alors, quand on se parle à soi-même, on soliloque. Alors, se parler à soi-même à voix haute, c'est un phénomène relativement courant et je vous dirais, roulement de tambour, c'est même plutôt bénéfique la majorité du temps.
Ouais. Va-t-il falloir que je commence à faire ça?
Ben moi, je m'en parle. Moi, je m'en parle.
Pour vrai? Tout seul, avec personne qui écoute?
Oui, absolument. Quand je fais des recettes, par exemple, tu sais, je vais dire, bon, je suis rendu là, nanana, bon, j'en ai-tu mis de ça? Oui, il me semble que je l'ai mis, tu sais.
Ouais, tu parles?
Oui.
Je trouve ça spécial. On dirait que j'ose pas.
Ben, contrairement aux idées reçues, je vous dirais même que, loin d'être un signe de folie, les médecins et les psychologues s'entendent plutôt pour dire que soliloquer, c'est peut-être un outil précieux d'autorégulation émotionnelle et cognitive.
Ça, j'y crois.
À quoi ça sert, soliloquer? Ben, d'un point de vue scientifique, la soliloquie aide à organiser ses pensées. C'est un processus d'auto-réflexion. Soliloquer pour renforcer sa concentration, améliorer sa mémoire. Il peut s'agir même d'une réponse au stress, à de l'anxiété, ou encore à certains traumatismes, comme la perte d'un proche, ou encore une rupture amoureuse. Ah, voyons, man, elle te méritait pas, tu le sais bien, là. Tu vas en trouver une meilleure, là, à l'âge de broyer, là, puis avance. Tu sais, alors, ça peut même être une espèce de thérapie dans une certaine mesure. C'est même assez courant de voir des personnes qui se parlent à elles-mêmes dans différents lieux, diverses circonstances. Des sportifs, par exemple, tu sais, qui vont être là. Ah ouais, on va l'avoir à soi, on va l'avoir. Alors, c'est tout à fait normal. Certains individus vont se parler à eux-mêmes pour se motiver, se concentrer dans des activités qui méritent une attention particulière, comme avant de faire un discours, par exemple. Ils vont se parler tout seul et des choses comme ça. Et la soliloquie n'a pas d'âge, si vous vous posiez la question. On le voit chez les enfants, on peut le voir chez les personnes âgées également, mais ça peut devenir un problème. Je ne vous dis pas que soliloquer, c'est nécessairement toujours quelque chose d'extraordinaire. Ça peut indiquer un problème de santé mentale ou neurologique. Et dans ce temps-là, il faut évaluer un peu la raison pour laquelle la personne soliloque. De façon générale, se parler à soi-même, c'est généralement inoffensif. Mais il y a certaines circonstances où ça va devenir problématique. Si on parle, par exemple, de façon excessive et compulsive, se parler tout seul d'un autobus quand il y a du monde, c'est pas top-notch pour le social, tu sais, on s'entend.
Non, c'est ça.
Si la personne s'isole, par exemple, puis elle se parle à elle-même, tout seule, dans sa chambre, puis elle fait pas de social, il y a peut-être un problème psychologique ou psychiatrique là, à ce moment-là. Alors, tu sais, ça peut être de la schizophrénie, de la bipolarité. On va voir également des gens qui sont, par exemple, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui sont des neuro-atypiques, quelquefois se parler à eux-mêmes. Donc, il y a certaines circonstances où soliloquer, c'est pas nécessairement un signe, on va dire, de comme contrairement à ce que je disais tantôt, d'intelligence ou de mieux-être. Ça peut également receler ou être la prémisse d'une maladie ou d'un trouble mental. Mais de façon générale, pour résumer, rassurez-vous, si vous vous parlez seul de temps en temps, soit pour vous remettre d'aplomb après un événement, soit pour vous ressaisir des choses comme celle-là, ça, c'est pas problématique. Si vous commencez à parler seul dans l'autobus devant le monde puis vous n'êtes pas capable de vous contrôler, là, ça
peut... Allez consulter.
Mais, ça peut être
vrai. Plus. Moi, Simon, tu sais, je pense que je ris même pas fort quand je suis seul.
Ah ouais, hein?
Tu sais, je pense que je ris fort quand il y a du monde. On dirait, je sais pas, j'ai l'impression que seul, moi, je fais plus de bruit, je parle pas. Peut-être c'est parce que j'aurais la crainte de me faire pogner puis que les gens ont l'impression que j'ai un problème de santé mentale s'ils me voyaient parler.
Mais c'est pas un problème.
Je vois comme pas l'utilité, mais j'avoue que dans des moments de grande tristesse, je pense l'avoir fait un petit peu.
Ouais,
avoir ben prononcé sûr. Quelques mots, hein, pour me parler ou pour me remettre. Non.
Alors, rassurez-vous, ce n'est pas de la folie se parler tout seul, pour peu évidemment que vous le fassiez pas, passiez pas votre temps à vous parler tout seul dans les lieux publics, par exemple. Là, tu te promènes dans le centre commercial puis tu parles tout seul continuellement. Il y a peut-être un petit problème. Là. Dans un tout petit instant, on s'attaque à notre deuxième sujet. En l'occurrence, on va parler de la plus ancienne fourmi du monde. Restez là. Et puis, on va parler également du système électoral canadien.
Contenir des infos.
On s'attaque cette fois-ci pour cette deuxième partie de l'émission au système électoral canadien. Puis dans un moment, on va parler de fourmis avec Sébastien. Vous savez que le 28 avril dernier, on est allé aux urnes, on a élu un nouveau gouvernement. Et qu'est-ce qui caractérise le système électoral canadien dans sa forme actuelle? Je vais répondre à quelques-unes des questions que vous vous posez peut-être. Le Canada fonctionne selon un système qu'on appelle une démocratie représentative. Alors, les citoyens, vous savez, qui sont âgés d'au moins 18 ans, ont le droit de voter dans leur circonscription, dans laquelle ils doivent élire un représentant, donc on le dit, démocratie représentative, et cette personne-là va siéger à la Chambre des communes. Et le Canada utilise un système électoral de scrutin majoritaire uninominal à un tour, qu'on appelle aussi un scrutin anglais.
Ah?
Ouais,
je savais pas.
Alors, le scrutin majoritaire uninominal à un tour que nous utilisons au Canada, ça s'appelle aussi, dans une forme raccourcie, ça s'appelle aussi un scrutin anglais. Et fait à noter, toutes les provinces et tous les territoires du Canada utilisent également un scrutin uninominal à un tour pour l'élection de leur législature. Ceci dit, les systèmes électoraux sont totalement indépendants du système fédéral. Toutes les provinces, tous les territoires ont leur propre loi électorale, leur propre administration, mais tout le monde, d'une place à l'autre, tu ne fais pas des pieds et des mains là, pour aller voter. Ça fonctionne tout de la même façon. Tu as un bulletin de vote, tu coches, tu mets ça dans une urne, on compte. Celui qui a le plus de votes, c'est lui qui l'emporte. Grosso modo, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et depuis 2007, la loi électorale du Canada prévoit des élections générales à date fixe, soit le troisième lundi d'octobre de la quatrième année civile qui suit la dernière élection générale. Mais là, vous allez dire, une minute là, tu es en train de me dire qu'on a des élections générales qui sont prévues à date fixe, au mois d'octobre, mais curieusement, on est allé voter au mois d'avril. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, voyez-vous, les élections peuvent être déclenchées à une autre date, au plus tard, 5 ans après la dernière élection, et c'est le gouverneur général qui a le pouvoir constitutionnel de dissoudre le Parlement, généralement avec la recommandation du premier ministre. Et c'est précisément ce que Mark Carney a fait le printemps passé, quand il, très peu de temps après avoir été choisi comme chef du Parti libéral du Canada en remplacement de Justin Trudeau, il a estimé qu'il n'avait pas les coudées franches ou la légitimité pour conduire le Parlement canadien ou le gouvernement jusqu'au mois d'octobre, où en principe, il y aurait dû y avoir des élections à date fixe, comme on l'a dit tantôt. Alors là, il est allé voir le gouverneur général, ou la gouverneure générale dans ce cas-ci, et il a dit: est-ce qu'on pourrait dissoudre le Parlement pour que j'aie justement la légitimité ou les coudées franches, si vous me prêtez l'expression, pour gouverner? Et la gouverneure générale s'est prêtée de bonne grâce à ses demandes et elle a dit oui, on va dissoudre le Parlement et c'est comme ça qu'on est allé aux élections. Donc, si le premier ministre dit, par exemple, j'ai plus la confiance du Parlement canadien, il peut demander de cette façon-là au gouverneur général de dissoudre le Parlement. Processus électoral qui comporte évidemment plusieurs étapes, on le sait. Et chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'une campagne électorale, ça dure au minimum 37 jours et au maximum 51 jours. Savais-tu ça?
Non, je ne savais pas qu'il y avait un minimum maximum.
Absolument. La loi dit que le jour de l'élection doit être un lundi. Et donc, quand on dissout le Parlement, c'est de cette façon-là qu'on détermine la durée de la campagne, dans la mesure où la période qui va précéder le vote doit durer, on l'a dit, c'est 37 jours une campagne électorale minimum, 51 jours maximum. Donc, pour s'en aller jusqu'au lundi du vote, il faut qu'il y ait au moins 36 jours, mais pas plus de 50 jours. Donc, la loi électorale est ainsi faite au Canada que des campagnes électorales qui, comme aux États-Unis, vont s'éterniser pendant un an ou deux. Hein, aux États-Unis, c'est ça, la campagne présidentielle. Tu n'entends, on se fait rabâcher les oreilles avec ça pendant à peu près un an, même des fois 2 ans. Mais au Canada, il n'y a pas ça. C'est 37 jours minimum, 51 jours. Maximum. Okay. Le vote est secret, évidemment. Il y a plusieurs options de vote qui sont disponibles. Le jour de l'élection, bien sûr, on peut voter sur un petit bulletin en papier, mais on peut aussi le faire par anticipation dans des lieux désignés, au Bureau d'élection Canada, par la poste également. Oui, on a déjà évalué le vote électronique. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là au Canada au vote électronique, sachez-le.
Et est-ce après la fermeture. Est-ce qu'il y a des pays qui le font?
Il y a des pays qui font le vote électronique, mais très, très peu parce qu'on n'a pas encore la certitude que, d'une part, ça ne peut pas être trafiqué. Ça, c'est la première chose. D'autre part, c'est aussi la vérification, pour ainsi dire, de celui ou de celle qui va voter. Parce que quand vous faites un vote à distance ou un vote électronique, oui, vous pouvez avoir un code, oui, vous pouvez avoir une série de mécanismes pour faire un contrôle du vote, mais qui nous dit que celui ou celle qui va s'asseoir devant l'ordinateur avec le code pour voter va bel et bien être celui ou celle à qui le vote est destiné? Comprenez ce que je veux dire?
Oui. Il pourrait y avoir toutes sortes de fraudes.
Bien, moi, je pourrais avoir 8 codes, par exemple, de ma famille, puis décider que je pacte le vote, puis je vote pour un tel candidat, comprenez?
Bien oui.
Alors, c'est un peu ça la patente. Donc, la façon de fonctionner qui est encore la plus légitime, c'est encore les bons vieux bulletins en papier, n'en déplaise à certains qui sont rendus un petit peu plus loin. Et après ça, ben, les bulletins sont dépouillés en présence de vérificateurs et tout ça. Et 2-3 petits faits étonnants pour conclure. C'est juste depuis 1970 que l'appartenance politique des candidats figure sur les bulletins de vote. Saviez-vous ça?
Ah bon? Avant, on voyait juste le nom?
C'est ça. On voyait le nom, on voyait l'adresse et la profession du candidat. Mais on ne voyait pas le parti politique. Ça fait que c'est spécial, hein? Il fallait s'informer avant coup si on votait pour Tijan des Biens. tu gens des biens, si tu es un conservateur ou un libéral, fallait que tu aies fait tes devoirs avant.
Hey, quand là, c'était vraiment la personne qui prônait. Là,
exactement. Autre chose, le vote par anticipation a été institué en 1920 et là, c'était limité à quelques catégories d'électeurs. Puis après l'élection de 1957, le droit de voter par anticipation a été accordé à tous les électeurs qui avaient des raisons de penser là, qu'ils allaient être absents le jour de l'élection. Ça, c'est juste depuis 1957. En 1970, la liste des personnes autorisées à voter par anticipation s'est allongée et ce n'est que depuis 1993 que le vote par anticipation a été rendu accessible à tout le monde. Hein, on pensait que ça faisait depuis bien plus d'années que ça qu'on avait le droit, que tout le monde avait le droit de voter par anticipation. Mais non, ça fait juste depuis 1993. Et sachez en terminant que la Charte canadienne des droits et libertés protège le droit de vote de tout citoyen canadien et le droit de poser sa candidature. Alors, voilà. Toi, tu veux nous parler de la fourmi la plus ancienne de la planète.
Oui. As-tu déjà entendu parler, Simon, de la fourmi de l'enfer?
Oui, vaguement, ça me dit quelque chose.
Ça dit quoi, hein? Ben oui. Avec des mandibules en forme de fossile, là, comme...
Oui!
C'est vraiment une fourmi qui a l'air tueur, là.
OK.
Eh bien, diversification qui était déjà avancée de cette fourmi-là au Crétacé inférieur. Et ça, ça date pas d'hier. Hein?
Ouais.
Et puis, ouais, parce que là, dans un bloc de calcaire de la formation de Crato, ça, c'est au nord-est du Brésil, il y a une équipe de paléontologues qui a identifié une espèce de fossile de fourmi, mais qui est daté de 113 millions d'années. Et donc, c'est ça, ça tombe dans le Crétacé inférieur. En fait, le Crétacé, là, c'est une des grandes époques, là, on en parle souvent à l'émission, on pourrait les retracer, mais le Crétacé, c'est une période géologique qui s'étend d'environ 145 millions à moins 66 millions d'aujourd'hui d'années. Se termine par une disparition des dinosaures non-aviens. Le groupe qui est en fait non-avien, ça veut dire qu'il n'inclut pas les oiseaux. Alors là, c'est à ce moment-là qu'il aurait disparu. Il y a aussi les ptérosaures et la plupart des reptiles marins qui auraient disparu, qui se sont terminés vers la fin de cette époque-là. Des ammonites et aussi beaucoup d'autres formes de vie qui ont disparu. Alors, période qui est la troisième et dernière de l'ère mésozoïque. Et ça suit le Jurassique et ça précède le, comment on dit, paléogène. Donc, c'est ça. Jurassique, c'est vraiment le temps des dinosaures. Mais quand les dinosaures non-oiseaux sont disparus, c'est la fin de l'ère Jurassique. Et on est embarqué dans la suivante.
Prenez des notes, là, parce qu'il y a des mots pour le Scrabble là, là-dedans. Là. Il y a des lettres qui vont être... des mots longs. Ouais,
puis, mais aujourd'hui, le quiz ne sera pas sur les dinosaures ni les aires géologiques. Mais bon, découverte qui est arrivée, qui donc nous donne la trace la plus ancienne confirmée de la présence des fourmis sur la Terre. 113 millions d'années en arrière. Wow. Auparavant, là, les plus vieilles fourmis, c'était 100 millions d'années à peu près qu'on leur donnait. Et là, elle a été décrite à partir d'un fossile qui a été conservé dans les collections du musée de zoologie de l'Université de Sao Paulo. Et puis, on l'appelle, cette fourmi, le nom scientifique Vulcanidris cratensis. Alors, elle présente une morphologie assez inhabituelle. Puis, la tomographie, qui est une technique d'imagerie, ça, là, qui est très utilisée dans l'imagerie médicale et en géophysique, en astrophysique, en mécanique des matériaux, donc toutes sortes de choses pour la tomographie. Alors, cette technique-là permet de reconstruire le volume d'un objet à partir d'une série de mesures qui sont faites à l'extérieur de l'objet. Et puis là, la microtopographie au rayon X, c'est une technique de tomographie qui est non destructrice, qu'on utilise pour retranscrire une image en trois dimensions d'un échantillon. Puis là, grâce à l'imagerie, ben, les chercheurs ont mis en évidence des mâchoires hautement spécialisées de la fourmi. C'est vraiment comme des fossiles, là, des faux, qu'elles utilisaient probablement pour empaler les proies. C'est toute une fourmi. Puis, on l'appelle donc la fourmi infernale, un peu pour cette raison-là. Et puis, découvrir un insecte comme ça, vieux de 113 millions d'années, qui possède déjà ce genre d'arrangement là, de fossiles et tout, c'est assez étonnant. Configuration qui nous montre que les structures spécialisées étaient très présentes très tôt dans l'histoire évolutive des fourmis. Et on ne s'attendait pas à ça. Donc, on a des fourmis plus vieilles qu'on pensait. Jusqu'à date, les fossiles les plus anciens provenaient d'inclusions dans l'ambre de France et de Birmanie. On avait les plus vieilles fourmis, c'est là qu'on les a trouvées, datées d'environ, que je te disais, là, 100 millions d'années. Puis le spécimen brésilien, qui est plus ancien, à 113 millions, lui a été conservé dans de la roche. Donc, c'est pas pareil. Ça en fait une source d'informations complémentaires. Les analyses phylogénétiques ont révélé qu'une parenté étroite entre cette fourmi-là et d'autres genres qui étaient présents uniquement dans l'ambre birman. Alors, ça suggère que les fourmis étaient largement distribuées en différentes masses continentales au Crétacé. Une dispersion qui remet en question les modèles qu'on avait, là, les modèles biogéographiques qui nous limitaient. On disait que l'apparition des fourmis, c'était juste dans l'hémisphère nord. Puis le contexte écologique du Crétacé inférieur brésilien, qui est marqué par des conditions semi-arides, des zones humides, ben ça diffère beaucoup des forêts tropicales humides où il y a des gisements d'ambre. Alors, la différence de milieu, ça suggère qu'il y a toute une capacité d'adaptation écologique pour les fourmis. Et c'est très étendu même chez les premières fourmis de la Terre qui datent là, jusqu'à maintenant. Là, maintenant, c'est 113 millions d'années en arrière.
Wow! OK, 113 millions. Mais tu sais, de la façon dont tu nous la décris, cette fourmi-là en question, avec ces espèces de mandibules, ou c'est, je ne sais pas trop comment
qu'on peut... Des fossés, là, ouais.
Des fossés, oui, c'est ça. Tu dis, une chance que ce n'est pas plus gros que le bout d'un petit doigt, là, tu sais, ou quelque chose dans le genre. Parce qu'imagine si ça arrivait en avant de toi, là, puis ça faisait comme 6-7 pieds de haut, là, puis c'était peut-être
un petit peu. Les seules affaires qui étaient géants, là, qui auraient pu nous faire vraiment peur, c'était sûrement à l'époque des dinosaures, hein, mais c'est ça, il n'y avait pas d'humains. Donc, c'est pas si pire. Les humains ont fait affaire à des créatures terrifiantes, mais en miniature.
c'est ça.
Pas si pire. C'est bien fait.
C'est bien fait pareil, la nature. Dans un instant, on va vous parler pour notre troisième bloc de l'émission « Peut contenir des infos ». On va nous parler de l'or. Hein? C'est bien ça, Sébastien?
Oui, ce grand métal adoré, on va dire.
OK, alors on parle de ça dans un instant.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Pour ce troisième bloc de Peut contenir des infos, on va se transporter jusque dans les mines, dans une certaine mesure.
On peut dire ça, mais pas tout à fait, parce que l'or, c'est pas tout à fait dans les mines.
OK.
Ah, Simon?
Mais moi, j'avais entendu parler des mines d'or.
Oui.
Okay.
Mais il y en a beaucoup dans les rivières.
Ah oui, dans les rivières aussi, ben oui, le Klondike, puis tout ça, puis la ruée vers l'or, puis...
Ben oui, ça se retrouve souvent là, à cause du poids. Mais sans doute, là, l'or qui serait un des métaux les plus utiles. Ça, je pense qu'on peut s'entendre. Les civilisations, depuis toujours, vénèrent l'or, depuis des milliers d'années, en tout cas. On l'admire pour toutes les utilisations qu'on peut faire avec, tellement c'est facile à travailler, l'or. Puis on peut le fondre, on peut le couler dans des formes très détaillées. Hein, donc, c'est un super métal. Puis, il peut aussi être étiré en fil. On peut le marteler en feuilles super minces. Donc, les décorations, les bijoux, de la monnaie, il y en a. Des utilisations qu'on a faites avec l'or. Puis, c'est un métal unique. Quand on dit dans son genre, premièrement, c'est le seul métal jaune. Il y en a d'autres métaux qui ont des couleurs qui peuvent avoir l'air jaune, mais seulement s'ils ont été oxydés ou qui ont réagi à d'autres produits chimiques. Mais comme ça, à l'état naturel, là, il y a seulement l'or qui est un métal jaune. Il y a des météorites ou d'autres débris spatiaux qui tombent sur la Terre qui en contiennent.
Hein, de l'or?
Une petite quantité qui nous vient parfois de l'espace. Il y a des scientifiques qui pensent même qu'une grande partie de l'or sur la Terre proviendrait de l'espace, d'ailleurs. Ça, c'est encore une théorie. La croûte, le manteau terrestre contiennent de l'or aussi. Puis, le symbole, est-ce que tu sais que le symbole... de l'or, là, les lettres?
AU, je pense, pas ça?
Oui, c'est ça. C'est le symbole de l'or, puis ça vient du nom latin aurum. C'est pour ça, AU. C'est les deux premières lettres du mot latin aurum qui signifie aube brillante.
Oh, OK.
En latin. Hein?
Eh ben.
Donc, c'est l'aube brillante qui avait comme la couleur. Je sais pas ce que c'est brillant, mais en tout cas. Puis, ça peut vouloir dire aussi, en latin, aurum, éclat ou lever du soleil.
Okay. Remarque que qu'il y ait des racines latines, c'est plus ou moins surprenant dans la mesure où, entre toi et moi, il y a beaucoup de notre vocabulaire, il y a beaucoup de nos mots qui tirent leurs racines justement du latin. Là.
Oui, mais je trouve ça drôle que le soleil soit associé à l'or, tu sais, quand on regarde la racine latine. Là,
ouais.
Puis c'est un métal noble, l'or, relativement peu réactif, résiste à la dégradation par l'air, l'humidité, ça résiste à ça, les conditions acides aussi, donc c'est tellement un beau métal, hein, on va dire le meilleur. Mais les acides dissolvent la plupart des métaux. Hein, on peut prendre du fer, on peut dissoudre ça dans l'acide. Mais l'or, pour le dissoudre, c'est avec un mélange spécial d'acide qu'on appelle aqua regia. Puis si on n'a pas ce mélange-là, ça, on ne le dissoudra pas. Là. Puis l'or élémentaire pur, est-ce que tu sais c'est combien de carats?
C'est 24, je pense.
Oui.
Oui.
Tout à fait. Et l'or de 18 carats, ben c'est de l'or pur à 75%.
Okay.
14 carats, c'est 58,5. Puis celui de 10 carats, c'est 41,7. Puis où est-ce qu'on peut trouver de l'or? Ben là, c'est ça. Quand je te parlais des rivières, les ruisseaux, là, c'est vraiment tout un endroit pour en trouver parce que l'eau qui coule emporte les matériaux légers, puis ça laisse derrière les matériaux qui sont plus lourds comme l'or. Et puis, même si la concentration d'or dans l'eau de mer est extrêmement faible, ben on dit quand même, tu sais, c'est gros la mer, on dit qu'il y aurait 20 millions de tonnes d'or qui sont dissous dans les océans.
Eh bien.
20 millions de tonnes.
C'est quand même pas mal. Remarque qu'à la grandeur des océans sur la planète, il y a de l'eau un petit peu.
Oui, puis c'est dissous. Hein. C'est des tout petits bouts d'or raboutés ensemble. Ça ferait un beau 20 millions de tonnes, mais quand même. Puis, savais-tu qu'il y a des plantes dorées?
Ben, j'ai cru voir ça, là, mais
j'imagine que c'est... Il y a de l'or dedans. Non. Parce que... Oui, parce qu'il y a des espèces de plantes qui absorbent des traces d'or qui sont dans le sol. Puis ça rend la plante dorée. Les scientifiques ont même expérimenté l'utilisation de plantes pour extraire l'or d'un sol contaminé.
Ah, ouais, hein?
On a pu extraire de l'or dans le sol en faisant pousser des plantes que l'or s'est retrouvé dans la plante. C'est quand même spécial. Alors ça, c'est des petites choses que je ne savais pas en faisant mes recherches. Et puis, l'or se trouve souvent en petite quantité dans des roches, les minéraux, dans les veines de quartz aussi, dans les sulfures. Et on l'utilise dans les soins dentaires. Ah, parce que tu as souvent vu ça, les dents en or, mais c'est que le corps ne rejette pas ça. Hein. C'est un métal que le corps prend très bien. Puis ça fait des siècles qu'on l'utilise pour des plombages, des couronnes, d'autres types de travaux dentaires aussi. Il y a certaines personnes qui ont découvert que leurs cheveux contenaient des petites quantités d'or. Il y en a dans les cheveux, ça, tu savais-tu aussi, non? Hein?
Non,
je regardais ton visage.
Parce que,
c'est probablement dû au fait qu'on aurait été exposé à de l'or dans l'environnement. Mais des cheveux en or, eh bien, c'est possible. Et puis, l'or, c'est un métal lourd, dense, généralement considéré comme non toxique. Et c'est pourquoi on l'utilise comme additif alimentaire souvent. Dans les restaurants de luxe, là, on sert de l'or.
Oui.
Ça se fait assez régulièrement. Puis, c'est aussi incorporé dans des boissons. C'est sûr que le fameux Goldschlager qu'on connaît tous, là, qui a des petites pépites dans le fond, là. J'avais été surpris, moi, la première fois qu'on me dit « Non, c'est de la vraie or. »
Ah oui. Hein.
J'étais là, ben oui, c'est des feuilles, mais elles sont tellement minces. Hein?
Ah, oui.
T'as déjà vu ça du Goldschlager, tu sais, on le voit que c'est pas grand-chose. Mais ça reste que c'est comme comestible. C'est pas que c'est bon pour la santé ou quoi que ce soit, mais ça fait pas de problème. On va dire non toxique. Donc, chaque bouteille de Goldschlager a des petits fragments de feuilles d'or qu'on peut consommer sans problème. Mais l'or, c'est parfois utilisé comme ingrédient anti-inflammatoire aussi, antioxydant et anti-âge, comme un peu anti-vieillissement. Dans les cosmétiques, les produits de beauté, il y a de l'or, mais les quantités utilisées sont généralement très, très, très faibles. Puis, dans le textile, pour continuer, il y en a des utilisations, mais dans le textile, c'est très flexible. Hein? Alors, une once d'or, si on l'étire en fil, d'après toi, on peut faire un fil de combien long avec une once? Une once, c'est pas gros, là. Une once, tu sais combien c'est...
C'est pas gros. Hein. Une once d'or, non, c'est pas un gros volume.
Si on l'étire un fil, le fil peut faire combien de long?
Un fil d'or, ça doit faire une coupe de dizaines de mètres. Tu peux pas voir que ça fait 10 ou...
Ah, t'es loin.
Ah ouais, hein?
C'est 8 kilomètres.
8 kilomètres?
Oui, oh. ça peut-tu s'étirer de l'or, tu penses? On peut faire 8 kilomètres de fil avec un once d'or.
Ah ouais, hein?
Ouais. Puis on l'utilise dans les vêtements depuis des siècles, surtout des vêtements royaux. Alors, on peut faire du fil avec ça. Puis dans chaque véhicule de la NASA, que la NASA lance dans l'espace, on utilise de l'or aussi. Et de plusieurs façons d'ailleurs, on l'utilise dans les circuits pour lubrifier les pièces mécaniques. On l'utilise pour recouvrir l'intérieur du vaisseau spatial. On protège donc les astronautes des rayonnements infrarouges, des températures extrêmes. Ça a toutes sortes d'utilité, vraiment. Et puis, comme l'or protège le vaisseau spatial des rayons UV nocifs, bien, une fine couche d'or qu'on applique aussi sur les visières des casques des astronautes. On en met sur leur combinaison aussi. Alors, tout ça permet justement contre les rayons UV. Puis, dans les ordinateurs, l'électronique, tu savais qu'il y a beaucoup d'or aussi?
Oui.
Parce que c'est des conducteurs naturels d'électricité, l'or en fait. Puis les téléviseurs, les ordinateurs contiennent des petites quantités d'or. Les circuits imprimés d'appareils plus anciens aussi, comme des appareils photo, les radios, avaient tendance à contenir de l'or dans le passé aussi. Les téléphones portables, ils contiennent une petite quantité d'or, grande résistance à la corrosion. Et c'est beaucoup plus fiable que l'argent, si tu regardes l'or et l'argent, mais ça coûte plus cher.
Oui.
L'or est plus dispendieux. Puis, l'encre dorée, est-ce que tu as déjà vu l'encre dorée?
J'ai déjà vu de l'encre dorée, ouais.
Ça, ça fait des impressions durables de haute qualité. Et puis, ça s'est même étendu à l'impression 3D, où on a utilisé de l'or de manière expérimentale, là, au départ, pour produire des objets uniques hein, en 3D, impression 3D.
Puis, en or, là. On a imprimé ça avec une imprimante 3D. On a fait une patente en or.
Ouais.
Bon, ouais, hein?
Ouais. Ben, c'est encore expérimental à ce niveau-là, mais on fait plein d'essais. Puis les nanoparticules d'or, quand on en ajoute à du verre, de la vitre, du verre, V-E-R-R-E, ben, ça peut faire toute une gamme de couleurs. Ça va du rouge au violet. On peut faire de la vitre colorée en ajoutant de l'or. Puis ça peut même passer par le bleu. Donc, c'est des types de verres sont souvent utilisés pour des articles de luxe, des bijoux, des montres, mais on peut utiliser l'or mélangé avec la vitre, puis ça fait des belles couleurs. Puis, il y a certains artistes qui ont utilisé les feuilles d'or ou de la peinture d'or dans leurs œuvres, surtout dans l'art religieux, on va dire.
Ben, on s'entend, là, ouais.
Dans les églises, il y en a beaucoup, là. Puis, bon, mais des petites quantités d'or peuvent ajouter une valeur significative, on va dire, à une création. Ça y donne de la valeur. Puis, comme les œuvres d'art, la feuille d'or a été utilisée tout au long de l'histoire pour créer des revêtements sur les surfaces extérieures et intérieures des bâtiments, comme les temples religieux, surtout les palais. Et l'or est étonnamment durable. Ça peut aider à protéger contre la corrosion, justement, comme je l'avais dit un peu précédemment. Puis, la raison de la biocompatibilité.
Biocompatibilité, OK,
ouais. Ouais. En raison de ça, parce qu'elle est biocompatible, l'or, puis elle a une résistance à la corrosion, bien, on l'utilise pour les implants médicaux. Puis, on fait aussi des stimulateurs cardiaques, des articulations artificielles avec ça. On traite l'arthrite aussi. On l'utilise dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Les patients reçoivent des injections de sel d'or pendant 22 semaines.
Oh, ouais, hein?
On te shoot du sel d'or. Puis, ça permet de soulager la douleur, ça réduit l'enflure aussi, puis la raideur pour les gens qui souffrent de polyarthrite.
Spécial quand même. Ouais, je pensais pas. Tu sais, je veux dire, on pense à l'or, on pense bijoux. On sait à la rigueur qu'il y en a dans les composantes électroniques, dans nos téléphones cellulaires ou dans nos ordinateurs, parce qu'on a peut-être entendu parler qu'il y avait, par exemple, des conducteurs là-dedans, justement, qui étaient faits en or. Mm-hmm. Mais d'avoir toutes ces applications-là, d'apprendre, entre autres choses, que même jusque dans le corps humain, il n'y a pas à toute fin utile de réaction négative de notre organisme vis-à-vis l'or, c'est quand même ça waouh, je tombe des nues aujourd'hui.
Ah, on dirait que ça nous donne le goût quasiment de n'acheter un lingot. Hein?
Quasiment.
Avoue que c'est le métal là, comme parfait. Là. C'est vraiment quelque chose. Puis, on comprendra peut-être un peu plus sa valeur hein, aujourd'hui quand on parle de tout ça. Mais regarde, en 2012, on va terminer là-dessus, la banque Sherbank Kazakhstan, qui a introduit une carte de crédit exclusive qui était faite en or. En 2012, ils ont sorti ça. Et il y avait aussi des diamants et du nacre dans la carte de crédit. Mais bon, la banque demandait 100 000 $ pour avoir la carte.
Donc, ben, quand ton compte de banque est, à toute fin utile, ta carte bancaire, tu n'as plus une scène dans ton compte en banque, puis tu traînes ton compte en banque dans ta carte de paiement à toute fin utile parce qu'elle est en or puis en diamant.
Là, la carte vaut 100 000. Puis tu sais, à Abu Dhabi, il y a beaucoup de distributeurs automatiques maintenant de billets d'or. Ils font ça, tu vas au guichet pour te retirer de l'or. C'est dans des centres commerciaux haut de gamme qu'il y a ça à Abu Dhabi. Des distributeurs qui permettent aux gens de retirer des lingots d'or même. Puis, ils proposent aussi une variété de pièces de plaques gravées. Le coût est calculé en fonction du prix actuel du métal du marché, sur le marché. Puis là, ben, on peut retirer de l'or dans des guichets à Abu Dhabi. C'est quand même spécial. Mais bon, j'espère que je vous en ai appris quelques petites choses que vous ne saviez pas sur l'or. Moi, en tout cas, j'en avais appris beaucoup en faisant la recherche. Je ne savais pas tout ça.
Tu dis... Ah non, franchement, ça a été très, très, très instructif parce que, comme je disais, on s'imagine de l'or, ben, des bijoux, des pièces de monnaie, des choses comme celle-là, mais de savoir qu'il y a autant d'applications dans autant de domaines. Tu sais, si encore c'était dans un ou deux domaines, mais non, le champ des possibles pour l'or est manifestement très, très large. Franchement, ça a été très instructif. Merci, Sébastien. Dans quelques instants, si vous restez avec nous autres, vous aurez droit à un quiz.
Une autre affaire instructive.
Oui, puis on va le consacrer ce quiz-là à l'astronomie, c'est ça?
Oui, plus précisément le système solaire.
OK, parfait, on vient.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
C'est le dernier quiz de Sébastien, parce que la collaboration, on vous l'a dit en début d'émission, elle s'arrête cette semaine, mais il nous en a préparé un peu pire.
Oui, puis je me disais, ben, tant qu'à terminer, on va y aller avec quelque chose que je connais bien. Ben, je connais bien. Hein, on pourrait toujours en connaître plus en astronomie, mais j'avais travaillé dans le domaine quelques années, puis je me suis toujours intéressé à ça. Puis je me suis dit, on va faire un tour des choses intéressantes sur notre système solaire qui a à savoir des notions de base. Il y en a peut-être qui nous échappent, il y en a peut-être qui nous écoutent qui vont savoir tout, qui auraient tout bon. Et on va commencer ça avec Simon. Quel est le principal corps céleste de notre système planétaire? Est-ce que c'est la Lune, la Terre ou le Soleil?
De notre système planétaire? Ben c'est, oui. C'est la Terre.
Et mauvaise réponse pour commencer, c'est le Soleil qui fait partie de notre système planétaire. Il en est un peu le moteur et puis il en fait partie. Alors, question piège pour manquer la première, mais bon, le Soleil est le principal corps céleste de notre système.
Parce que je me disais, non, mais je me suis mis dans la tête planète. Je me disais, ben, le Soleil, c'est une étoile, c'est pas une planète.
Exact, c'était ça.
La Lune, c'est notre satellite, elle n'est pas non plus une planète. Je me suis dit la Terre, mais OK, tu voulais dire du système en général.
Le système, c'est le mot système qui vient tout chambouler parce que si j'avais dit des planètes, mais là, même la Lune n'aurait pas été considérée. Okay. Là.
Parfait.
D'accord. Alors, les planètes naines, les petits corps, orbitent autour du Soleil et c'est ça qui est notre grand système planétaire, mais le Soleil en fait partie, au centre. Alors, je vais te poser une question de géographie solaire. Où est-ce qu'il se trouve le système solaire dans notre galaxie, qui est la Voie lactée? Bien, où est-ce qu'il se trouve dedans? Je vais te donner un choix de réponse. Est-ce que le système solaire est au centre? Est-ce qu'il est proche de la périphérie, sur le côté? Ou est-ce qu'il est dans le noyau galactique?
J'aurais tendance à dire, sais-tu, je pense, enfin, je dis ça comme ça, mais je pense qu'il doit être pas mal en périphérie.
Bonne réponse. Et puis, où est-ce que ça t'a sonné des cloches? As-tu eu des souvenirs que tu t'aurais rappelé que tu penses t'as vu une image ou quelque chose? Hein?
Bien, je pense avoir déjà vu, effectivement, je dirais ça, des représentations en trois dimensions, des choses comme celle-là. Et il me semblait avoir vu que c'était plutôt en périphérie. Je ne voyais pas ça comme le centre. On n'est pas le centre de l'univers, là, contrairement aux idées reçues. Ouais, il me semblait l'avoir situé pas mal en périphérie.
Ouais, puis dans le centre de la galaxie, il y a de l'action. Là, il y en a de l'étoile, puis des géantes, puis plein d'affaires. Mais en périphérie, nous, qu'on est ici avec notre système, un système lourd hein, d'ailleurs, parce que tout est connecté ensemble. Alors, avec nos grosses planètes, là, puis le Soleil, là, on est lourd, puis on s'en va pas nécessairement. Tu sais, il y a une force centripète et une force centrifuge, hein, parce que la galaxie qui tourne sur elle-même. Alors, nous, on est comme un peu en retard dans le mouvement. On n'est pas attiré vers le centre. On est comme un peu en retard à cause du poids. C'est ça. Alors, on se trouve en périphérie. En fait, notre système solaire se trouve dans le bras d'Orion. Alors, c'est tout proche du côté de la galaxie. On appelle ça le bras d'Orion. Et je suis sûr que pourquoi tu le savais, là, c'est qu'il y a souvent des photos qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit une galaxie, puis ça marque « Nous sommes ici » avec une flèche. Puis il y a vraiment sur le côté. Moi, j'ai souvent vu ces photos-là passer. Maintenant, le groupe local. On appelle ça comme ça les amas de galaxies. Là. Un groupe local dans lequel on appartient, nous, c'est un petit amas d'environ 25 galaxies. Alors là, je vais te demander, quelles sont les plus grandes galaxies de notre groupe local? Est-ce que ce sont le Triangle et Cassiopée? Est-ce que c'est la Voie lactée et Andromède? Ou est-ce que c'est le Sagittaire et Cassiopée? Seraient les plus grandes?
Ouais, je présume Andromède et la Voie lactée, c'est probablement... enfin, c'est ma présomption, mais je me trompe probablement.
Bonne réponse!
Ah ouais, hein?
Oui, c'est les deux plus grandes. Les diamètres, là, la Voie lactée, c'est 30... c'est des KPC, là. On appelle ça des kiloparsecs. Hein? Il y en a 30 et Andromède, 50. Puis si on compare avec les autres, le triangle, c'est 8 kiloparsecs. Cassiopée, c'est 1 kiloparsec. Le Sagittaire, 2 kiloparsecs. Puis je peux t'expliquer un peu vite, les kiloparsecs, c'est une unité de mesure qui est égale à 1000 parsecs, un kilo parsec. Et ça, c'est 3260 années-lumière.
OK. Pinottes,
c'est de la distance. Comment t'as dit?
J'ai dit des pinottes, finalement.
Des tout petites pinottes. Alors, notre Voie lactée, à nous, mesure environ 30 kiloparsecs de diamètre et son centre se trouve à peu près à 8 kiloparsecs du système solaire. Alors, OK, question 4. Schématiquement, et selon la définition de 2006, le système solaire est composé de A, du Soleil, 8 planètes principales et 2 ceintures d'astéroïdes. B, Soleil, 9 planètes principales et 2 ceintures d'astéroïdes. Ou C, le Soleil, 8 planètes principales et aucune ceinture d'astéroïdes.
je vais y aller avec la réponse A, probablement. 8 planètes puis 2 ceintures d'astéroïdes.
Ben, c'est tout à fait ça. Bonne réponse. Parce que, ben, c'est ça, il y a le Soleil, il y a 4 planètes telluriques internes, une ceinture d'astéroïdes. Ensuite, il y a les 4 planètes géantes externes, mm-hmm. puis il y a une seconde ceinture d'astéroïdes. C'est pas tout le monde qui la connaît, celle-là. Et puis, elle contient cette deuxième ceinture, au moins 3 planètes naines, qui sont Pluton, il y a Makemake et Oméa. Okay. Qui sont là, dans cette ceinture. Puis l'héliopause, en fait, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, frontière extérieure du système solaire, là, c'est défini par le point où les vents solaires s'éteignent par rapport aux vents galactiques qui viennent de l'autre bord. Et là, c'est là que débute l'espace interstellaire, donc entre les étoiles. Bon, c'est ça. Ça, c'est à l'autre bout du monde, hein, ben, on va dire,
c'est
du
le système solaire. C'est là que Goldorak va se promener, le genre, là, t'sais.
Oui, les vents solaires là, ont des limites et c'est ça qui forme l'héliosphère.
OK,
ben on y va pour une autre question. Comment qu'on nomme les 4 planètes les plus proches du Soleil? C'est dommage que je t'ai déjà envoyé la réponse dans mes commentaires, mais les plus proches du Soleil, est-ce que ce sont les planètes naines, les planètes géantes ou les planètes telluriques?
Les planètes telluriques.
Oui, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis, est-ce que tu sais ce que veut dire le mot tellurique?
Ben, c'est qu'elles ne sont pas gazeuses, si je ne me trompe pas. C'est...
Non, mais en fait, le mot, là, c'est l'adjectif pour tout ce qui concerne la Terre.
Ah, OK, OK.
Quelque chose de tellurique, là. Une planète tellurique, c'est une planète qui est du même type que la Terre.
Okay.
Donc, forte densité moyenne, mais de dimension relativement petite.
OK.
Donc, ça, c'est une planète tellurique. Mais tellurique, quand on regarde une définition dans le dictionnaire, c'est qui concerne la Terre.
OK. Donc, mais je ne me trompe pas en disant que les autres planètes qui sont plus éloignées, les géantes, sont gazeuses pendant la majorité des cas, non?
Oui.
OK.
C'est des grandes, grandes atmosphères. Okay. Énormes. Puis justement, ben, ma prochaine question, c'était comment on nomme les planètes du système solaire les plus éloignées? Tu peux le dire.
Ben, les géantes.
Géantes, ben oui. Puis mon choix de réponse, c'était les planètes exotelluriques ou les exoplanètes ou les planètes géantes. Ou les planètes éloignées, ben c'est les planètes géantes qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Est-ce que tu sais ce que c'est une exoplanète? Je l'avais mis dans mon choix de réponse, mais...
Une exoplanète, ça doit être les planètes qui sont à l'extérieur de notre système solaire, j'imagine.
Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, voilà. Septième question. Où est située la première ceinture d'astéroïdes? Tu sais, je te donne les renseignements à l'avance. Est-ce que c'est entre le Soleil et Mercure, entre la Terre et Mars, ou entre Mars et Jupiter?
Entre Mars et Jupiter. Attends, mon vieux, entre Mars et Jupiter.
Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète.
Ouais, c'est ça.
Le fameux truc hein, qu'on apprend quand on est jeune. Ouais. Puis avec Pluton, là, qui nous disent que c'est plus une planète. Quand j'étais jeune, c'était une planète. Moi.
Une planète? Pas une planète.
C'est une planète naine. Mais oui, la dernière planète tellurique et la première planète géante hein, entre ces deux-là. Donc, la dernière, c'est Mars. Première géante, c'est Jupiter. Quel est le nom de la deuxième ceinture d'astéroïdes? Elle, c'est celle qui est à l'autre bout, après Neptune. Mais je vais te donner elle a un nom, hein, la ceinture. Je vais te donner un choix de réponse. Est-ce que c'est la ceinture de feu, la ceinture de Kuiper ou la ceinture d'Oort, avec deux O, Oort?
J'ai déjà vu la ceinture de Kuiper quelque part. Je vais prendre ça, je vais essayer ça.
Q-U-I-P-E-R. C'est la bonne réponse. Le gars, il a une mémoire d'éléphant qui ramène des...
Non, mais je me souvenais d'avoir lu ça quelque part. Je ne sais pas quand, là, mais...
Oui, c'est la ceinture de Kuiper.
Okay.
Puis oui. Puis là, je vais te parler, je t'avais mis dans le choix de réponse la ceinture d'Oort, mais ça, là, le nuage d'Oort, il y en a qui l'appellent ceinture d'Oort aussi, mais le nuage d'Oort est bien au-delà de la ceinture de Kuiper.
Okay.
Il y a la ceinture de Kuiper, puis après ça, plus loin, il y a le nuage d'Oort. Puis, il contiendrait des objets qui pourraient former des comètes. Et de combien d'objets il contiendrait le nuage d'Oort qui pourrait former des comètes? Est-ce qu'on parle de 100 millions, 1 milliard, 100 milliards ou 1000 milliards?
Je vais dire 100 milliards, mettons.
Et c'est le 1000 milliards, la bonne réponse.
1000 milliards, ben,
c'était le D, la grande réponse. 1000 milliards. Les astronomes savent depuis vraiment longtemps qu'il y a deux classes différentes de comètes. Il y a les comètes à courte période, tu sais, des comètes qui reviennent, mettons, en dedans de 200 ans. Tu sais, on les voit passer. Comme celle de Halley, la comète de Halley.
OK.
Elle revient dans la vie. Leur trajectoire a pour propriété de se retrouver dans le plan de l'écliptique. Comme celle des planètes. Hein, tu sais, on en avait déjà parlé de l'écliptique. Hein, mais
un petit peu, ouais.
En tout cas, tu sais, le Soleil, par où il passe là, dans le ciel, c'est la ligne de l'écliptique. Donc, toutes les planètes passent par là. C'est un peu le plan du système solaire.
Hein. OK.
Donc, on est dans le plan. Donc, toutes les planètes, quand ils passent dans le ciel, elles passent à un même endroit que le Soleil est passé là, dans la journée. Mais bon, la trajectoire dont se trouve dans, sur l'écliptique. Puis ensuite, il y a les comètes plus longues. C'est quand on dit qu'ils sont plus que 200 ans, le cycle avant qu'elles reviennent, eh bien, souvent, c'est des comètes qu'on a vues juste une fois. Ils sont repartis, okay. Puis ils ne reviendront jamais, hein, parce que c'est très, très long avant qu'ils reviennent. Puis, des fois, on estime que la période, c'est des millions d'années. Donc, on la voit passer une fois, puis on ne les voit plus jamais. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de comètes. Puis, eux autres, c'est des orbites gigantesques. La répartition en deux groupes, ça a conduit les astronomes à postuler l'existence de deux réservoirs. Ils se sont dit, ça doit venir de deux places différentes. Il y en a qui ont vraiment des périodes courtes, donc c'est gigantesque. Alors, il y a la ceinture de Kuiper, qui serait un des réservoirs, et le nuage de Oort, qui serait le deuxième réservoir. Puis le nom des deux astronomes qu'ils ont imaginés dans les années 1950, c'est justement Gérard Kuiper et Jan Oort. Okay. On leur a donné les noms. Il y a des astronomes qui pensent que Triton, Pluton et d'autres objets aussi, là, dans le bout de Neptune, sont des objets de cette ceinture-là, qui se distinguent simplement par leur taille exceptionnelle et leur orbite. Puis le nuage de Oort, ben, il s'étend sur des distances entre 30 000 et 100 000 unités astronomiques. C'est fou, là. L'unité astronomique, c'est approximativement la distance entre la Terre et le Soleil. On a établi ça à peu près 150 millions de kilomètres. Donc, une unité astronomique, puis lui, il se trouve entre 30 000 et 100 000 fois 150 millions de kilomètres. Alors, imagine, c'est des gros chiffres. Alors, dernière question, vite, vite. Qu'est-ce qui devrait se passer, selon les scientifiques, dans environ 4 milliards d'années? Une collision entre Andromède et notre galaxie, la Voie lactée? Est-ce que ce serait l'apparition d'une Terre jumelle? Une collision entre la Terre et le Soleil? Lequel ce serait des trois? Une collision entre les galaxies?
Moi, je crois probablement que les deux galaxies vont rentrer une dans l'autre.
Oui, c'est ce qui est prévu, c'est la bonne réponse. Galaxie d'Andromède et Voie lactée, qu'on dit qu'ils s'approchent à la vitesse approximative de 430 000 km/h. Sont quand même tellement loin l'une de l'autre, hein, si on regarde dans l'espace cosmique. Mais la collision devrait aboutir à la fusion des deux galaxies en une nouvelle plus grande qu'on appellerait Milcomède ou Lactomède, même si on ne le verra jamais.
Déjà en train de nommer des affaires qu'on ne verra pas.
Ils ont déjà donné des noms à cette nouvelle galaxie potentielle.
C'est bon, on va faire travailler l'imagination.
Combien de bonnes réponses?
4, 6, 8. 8 réponses sur 10.
Bon, ben, franchement, tu n'es pas si mal. Hein, tu savais des petites choses.
Oui, puis j'ai une pas pire mémoire là, pour ces affaires-là. Fait que
mais ce n'était pas un quiz très, très difficile, mais je savais qu'avec mon nuage de Oort puis certaines petites choses, là, j'allais aller creuser un petit peu plus loin, des choses qu'on entend moins souvent.
Et ça clôt l'émission et ça clôt notre collaboration, Sébastien. Ben merci d'avoir été là depuis la rentrée d'automne en septembre dernier.
Fait plaisir.
Ben oui, ça nous a fait plaisir à nous autres aussi. Puis ceux et celles qui veulent avoir leur ration, leur dose hebdomadaire de Sébastien, bien dans plusieurs de nos stations membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada, vous allez le retrouver d'une semaine à l'autre pour l'animation du décompte franco. Tu as toujours du fun pour ça, ouais.
Ben oui, absolument. Puis ça, des belles nouveautés chaque semaine. Suivez ça, on a le palmarès national. Et puis, je tiens à dire, Simon, ça a été un immense plaisir de travailler avec toi. Je pense même que ça a été formateur. Et puis... j'ai appris tellement de choses avec nos différents sujets que j'ai aimé te partager dans les tiens aussi. Donc, pour moi, ça a été un cadeau du ciel, cette émission. Et merci d'avoir pensé à moi pour le remplacement que vous aviez besoin.
Ben, bonne continuité. Puis quand on aura encore de besoin, ben, on a ton numéro, comme on dit, ou on a ton courriel.
Ben oui.
Parfait, merci.
Je répondrai présent.
Parfait. Alors, la semaine prochaine, vous êtes là, mesdames, messieurs, parce que ça va être une autre édition de Peut contenir des infos. Il nous en reste quelques-unes d'ici le mois de juin. Et celle de la semaine prochaine, ce sera avec une nouvelle co-animatrice. Et d'ici là, ben, passez une bonne semaine. Salut.